Emmanuel. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Nous restons debout, si nous sommes encore debout, ou assis, si nous sommes déjà assis. Réalisez que le Dieu qui s'appelle Emmanuel est bien présent parmi nous. Réalisez que cette heure merveilleuse et bénie que nous passons avec lui rencontre tout à fait sa volonté à l'égard de chacun de nous. Réalisez que il est là et il prend plaisir. Il a du plaisir à nous voir chanter pour sa gloire, à nous voir lui exprimer nos sentiments d'une manière ou d'une autre. Emmanuel est là. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous allons garder un moment de silence tout en restant ouverts à l'Esprit de Dieu. Oh, alléluia. Notre Père et notre Dieu, avant de pouvoir nous asseoir à tes pieds, avant de pouvoir te tendre, Seigneur, une oreille attentive, afin que tu nous parles, nous aimerions te dire merci pour ce temps que tu viens de nous accorder. Tant qu'il nous a permis, ô Dieu, de pouvoir entrer dans ta présence et d'interagir avec toi. Moment qui nous ont permis, ô Seigneur, de faire monter vers toi notre louange et notre adoration. Aide-nous, ô Dieu, à grandir dans ce domaine, car tu nous appelles à être de véritables adorateurs. Tu nous appelles, Seigneur, à te louer en esprit, en vérité. Tu nous appelles, Seigneur, à expérimenter cette joie, ce bonheur et cette grâce qu'il y a à s'attarder devant ta face, Seigneur, à se réjouir en ta présence. Oh, merci pour tout. Merci d'avoir eu un cœur attentif, Seigneur, à toute cette louange, à toute cette adoration. Oh, merci pour tout. Nous voulons maintenant, Seigneur, après t'avoir exprimé nos sentiments, après t'avoir fait connaître les paroles de nos bouches, nous aimerions maintenant nous taire, Seigneur, et te donner l'occasion de nous parler. Ce matin, nous voulons que tu puisses poser ta main sur ton serviteur. Ce matin, nous prions pour que tu puisses le revêtir de ton autorité, tu puisses déverser sur lui, Seigneur, ta puissance, afin qu'il puisse n'être qu'un outil entre tes mains pour la croissance de ton Église, pour l'édification de chacun de nous. Ô Dieu, aide à chacun de nous d'accueillir ta parole, Seigneur, comme une sémence vivante et incorruptible. Accueillir ta parole comme étant la seule pensée capable de nous transformer à ton image, de nous métamorphoser, Seigneur, profondément, et de nous faire ressembler à toi et à toi seul. Oui, parle-nous ce matin. Fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Et gloire à Dieu. C'est formidable de savoir que notre Dieu est toujours là lorsque nous venons le rencontrer. Non seulement il est là, mais il s'intéresse à chacun de nous, mais il donne à chacun de nous l'opportunité de s'approcher de lui, car avec lui, eh bien, tout devient possible. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Je voudrais revenir sur le thème de la fois dernière, à savoir le Dieu de toute grâce. Et comme je le soulignais dès l'entame de mon message le dimanche dernier, eh bien, parler de la grâce de Dieu, c'est aller au centre et au cœur de cette vérité qui est à la base de toute action de Dieu envers l'homme quel qu'il soit. Alléluia. Parler de la grâce de Dieu, mes amis, c'est de parler de ce qui singularise le Dieu de la Bible. C'est d'aller à la rencontre de ce qu'il a de plus intime, car c'est dans son être, car c'est dans sa nature de faire plaisir à l'homme, l'homme qu'il a créé, l'homme qu'il a fait en son image. Alléluia. Et donc, il est important que vous et moi, nous comprenions cette notion de la grâce de Dieu, que nous comprenions que cette vérité est fondamentale, elle est essentielle dans le cadre de nos rapports avec le Seigneur, dans le cadre de notre relation avec lui. Autrement, nous risquons de sombrer dans cette religion qui est fondée sur les mérites personnels. Voyez-vous, cette religion qui pousse les gens à faire pénitence dans le but de racheter telle ou telle autre grâce de la part du Seigneur. Cette religion qui ouvre la porte, mes amis, à toutes sortes d'abus, d'abus méritoires. Non. Il n'y a rien que nous puissions faire qui puisse contraindre le Dieu de la Bible à se pencher vers nous et à nous accorder sa bienveillance. Alléluia. Tout ce qu'il fait, il le fait en vertu de sa grâce. Tout ce qu'il fait, il le fait parce que c'est dans son être. Il est le Dieu compatissant. Il est le Dieu qui fait grâce. Il est le Dieu riche en bienveillance. Il est le Dieu, mes amis, qui pardonne. Le Dieu qui est riche en fidélité. Il se tient toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Donc gardons-nous de cette fausse religion qui pousse les gens à vouloir s'appuyer sur leur mérite personnel, à vouloir monnayer les grâces de Dieu. Oui, il y a tant de choses que la Bible nous demande de faire, tant de choses que, mes amis, nous sommes censés faire. La Bible nous exhorte à exceller dans les bonnes œuvres. Voyez-vous, jeûner est quelque chose de biblique. Donner sa dîme est quelque chose de biblique. Donner ses offrandes, être généreux envers la maison de Dieu, être généreux envers les autres, être hospitalier envers les autres, rendre visite aux gens, exceller dans le domaine du social, tout cela, mes amis, est conforme à la volonté de Dieu. Mais nous devons faire très attention de ne pas croire que Dieu a fait ceci à notre égard parce que nous avions fait cela pour lui. Tout ce qu'il fait, il le fait simplement par pure grâce. Alléluia. D'où la vraie religion, celle que nous devons répandre tout autour de nous, la vraie religion qui rencontre l'assentiment du Seigneur, la vraie religion, celle que le Seigneur agrée, c'est celle qui porte et qui communique la révélation de la grâce de Dieu et qui véhicule par la même occasion, écoutez-moi bien, par la même occasion, une conscience très aiguë de la nécessité pour l'homme, mes amis, de renoncer à compter sur lui-même et d'accepter de dépendre entièrement vis-à-vis de Dieu. Amen. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Voilà ce qui va, une fois de plus, nous préoccuper ce matin. Nous allons quitter un tout petit peu l'Ancien Testament, puisque le passage que nous avons lu la fois dernière, qui est donc considéré, deux textes dans ce passage sont considérés comme étant la charte de la grâce à travers toute l'Écriture sainte. Nous allons donc quitter momentanément le monde de l'Ancien Testament pour nous tourner vers le Nouveau Testament et voir là aussi que la grâce de Dieu est bien présente. Et après, nous reviendrons dans l'Ancien Testament, car comme je l'ai souligné la fois dernière, cette approche dichotomique qui consiste à faire une séparation au sein de la divinité en disant que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu de la loi, et que celui du Nouveau Testament, c'est le Dieu de la grâce, eh bien cette approche-là est une hérésie que nous devons combattre absolument. Et donc, une approche théologique, ou même doctrinale pour certains, que nous devons rejeter. Le Dieu de l'Ancien Testament est aussi le même qui agit dans le Nouveau Testament, est aussi celui qui agit encore aujourd'hui. Alléluia. Et qui agira dans toute l'éternité, le Dieu de toute grâce. Nous allons faire deux lectures. La première est donc tirée de l'évangile de Matthieu, chapitre 1er, et le 3, premier verset. Et puis ensuite, nous irons dans le dernier livre de la Bible, à savoir le livre de l'Apocalypse, où nous lirons d'abord au chapitre 4, et puis ensuite nous terminerons notre lecture au chapitre 5. Évangile de Matthieu, chapitre 1er, le 3 premier verset. Nous lisons « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pérets et Zéra. Pérets engendra Hetzron, Hetzron engendra Aram, et la liste se poursuit. Et enfin, dans Apocalypse, chapitre 4, les deux premiers versets. Après cela, c'est l'apôtre Jean qui parle de toutes ces expériences qu'il a vécues alors qu'il était sur l'île de Patmos, forcé par la persécution. Chapitre 4, les deux premiers versets. Après cela, je regardais, et voici une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Chapitre 5, le 5 premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Amen. » Gloire à Dieu. Le Dieu de toute grâce, à chaque fois qu'il s'est penché vers les hommes dans l'Ancien Testament, eh bien, à chaque fois, il a fait par amour, il a fait parce qu'il est un Dieu compatissant, un Dieu qui fait toujours grâce et gloire à Dieu. Ce Dieu-là est à l'œuvre à travers toute la révélation écrite, depuis Adam et Ève, comme nous l'avons vu la fois dernière, jusque dans les dernières pages de la révélation écrite, à savoir jusque dans le livre de l'Apocalypse, eh bien nous avons affaire à un Dieu qui se singularise par le fait que dans son être, il est compatissant, il est miséricordieux, il est riche en bienveillance, alléluia, il est riche en fidélité, que Dieu soit béni. Il n'y a rien, mes amis, qu'Adam et Ève ont fait, qui eût séduit le Seigneur, qui l'eût charmé au point où il aurait été contraint à se pencher vers eux pour leur accorder sa grâce, pour leur donner sa parole. Car c'est sa parole qui les a aidés, mes amis, à réaliser dans quel état ils étaient, qui les a aidés à réaliser la nullité et la vanité, à vouloir faire quelque chose pour Dieu. C'est sa parole qui, en même temps, leur a montré le chemin de la réconciliation, qui désormais est un chemin ensanglanté. C'est lui qui leur a donné cette parole prophétique, messianique, qui leur a annoncé la venue de celui qui allait enfin payer le prix de leur esclavage, de celui qui enfin allait venir descendre de la femme pour les libérer, pour les délivrer du joug, de l'emprise du diable, emprise sous laquelle ils étaient désormais. Et gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, mes amis, nous allons parler d'un autre personnage de la Bible. Un personnage qui lui aussi a eu la grâce d'expérimenter la grâce de Dieu. Le Seigneur, comme pour Adam et Ève, comme pour Abraham, comme pour Isaac, comme pour tout autre patriarche, comme tout autre personnage de la Bible, eh bien, le Seigneur s'est penché vers lui pour lui accorder sa grâce, comme nous le verrons. Cet homme, ou cette personne, a eu une vie dissolue. Une vie, mes amis, marquée par la faillite, mais alors une faillite morale. La vie de cet homme, comme nous allons l'examiner, a été une vie indigne du Dieu de la Bible. Mais en dépit de cette indignité, en dépit, mes amis, de sa vie abominable, de sa vie abjecte, cet homme, ou du moins son nom, est toujours cité en bonne compagnie. Comment cela est-ce possible? Oui, la grâce, comme nous allons le voir. Et l'endroit où nous le trouvons, où nous trouvons ce nom-là, eh bien, la première page du Nouveau Testament, dont les premières lignes disent ceci, et nous l'avons lu, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Ma Bible est en train de se déchirer, il faut intercéder. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Et Judas engendra de Tamar, le nom de la femme avec qui il a eu Pérès et Zérah, donc Tamar. Combien tout cela est beau, combien tout cela est bien ordonné, oui ou non? Abraham engendra tel, tel engendra tel autre engendra, formidable, formidable. Ce passage nous retrace la généalogie de Jésus-Christ, du Seigneur, depuis Abraham, le père de la nation juive, jusqu'à Jésus-Christ, afin que non seulement qu'Israël sache que Jésus est l'accomplissement des promesses messianiques qu'il avait reçues de la part de Dieu, mais que le monde entier le comprenne également, que c'est Jésus-là, et celui après lequel l'humanité anguissait, l'humanité soupirait. Mais dans cette lignée messianique, parmi les gens qui sont mentionnés, nous rencontrons de gens surprenants, comme Judas et sa famille. Nous venons de les lire sur la première page du Nouveau Testament. Au premier chapitre, le nom de Judas est mentionné. Il n'a pas été le seul fils de Jacob. Et ce qui est formidable, c'est que la Bible dit le nom de ses frères. Il n'y a que son nom qui est mis en évidence. Jacob engendra Judas et ses frères. Et puis Judas engendra de Tamar, Pérès et Zérah. Voyez-vous? Et puis, sur l'une de toutes dernières pages de la Bible, dans le livre du Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean écrit ce que nous avons lu, puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, un livre scellé de sept sceaux. Et j'ai vu un ange puissant, qui proclamait d'une voix forte, imaginez-vous la scène, mes amis, dans ces visions que l'apôtre a reçues, il voit le ciel ouvert, l'Esprit de Dieu le prend, il est ravi en esprit, il quitte l'espace et le temps, il entre dans des dimensions qui sont au-delà, et c'est là qu'il va voir, c'est là qu'il va entendre toutes ces choses-là. L'ange proclame, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Silence total dans le ciel. Silence total. Et la Bible ajoutait, mais nul, mais personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Personne ne pouvait, personne n'avait le pouvoir, ni la dignité, mes amis, d'ouvrir ce livre des mystères de Dieu à un moment crucial de l'histoire de l'humanité. Mais heureusement, tout ne s'est pas arrêté là. L'apôtre s'est mis à pleurer. C'était quelque chose de terrible. Qu'il n'y ait personne, car le sort de l'humanité était en jeu. Qui pouvait ouvrir ce livre? Qui pouvait lire ce mystère? Gardez-moi, c'est précieux ça. C'est le morceau, un morceau d'une des pages de ma Bible. Il s'est mis à pleurer, à chaudes larmes. Il s'est mis à pleurer. Est-ce qu'il y a moyen de dire, de baisser un peu? Il s'est mis à pleurer. Mais tout d'un coup, eh bien, comme lui-même le dit, je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Nul n'avait le pouvoir ni la dignité d'ouvrir le livre et même de le regarder. Et voilà que l'un des anciens se tourne vers Jean et lui dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Il y a une solution. Il y a la solution. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu, a triomphé pour ouvrir le livre ainsi que ses sept sceaux. Oh mes amis, on ne peut pas rester sans réagir lorsqu'on lit des vérités comme celle-là. Je me souviens, c'était le 23. Mercredi 23, je suis à bord de cet avion qui me ramenait de Bruxelles, à, ici à Kinshasa. Et j'étais en train de méditer ce passage dans l'avion. Quand je suis arrivé en cet endroit où je réalisais que personne, ni au ciel, ni dans tout l'univers, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était en mesure d'ouvrir le livre et qu'il y a eu un seul, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda. Je suis arrivé à ce passage, je n'ai pas pu continuer, j'étais tout en larmes. Et je me souviens le voisin qui était, parce que j'occupais une place couloir, le voisin qui était de l'autre côté du couloir a remarqué que je pleurais. Rien ne pouvait m'arrêter. Un seul a été trouvé digne. Personne sur la terre, aucun prophète, aucun chef du jeu, aucun archange, aucun chérubin, aucun séraphin, mais Jésus de Nazareth. Mes amis, combien c'est merveilleux, combien c'est extraordinaire, combien c'est formidable, alors que tant de personnes ont été disqualifiées. Et je dirais même, alors que tous ont été disqualifiés et indignes de faire quoi que ce soit par rapport au livre et avec ces sept sceaux, il est formidable, il est extraordinaire d'observer que quelqu'un issu de la tribu de Juda, lui a été trouvé digne d'ouvrir les mystères de Dieu. C'est quelqu'un, bien sûr, nous le savons. Si vous lisez la suite, vous verrez que ce quelqu'un n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est le seul qui non seulement a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie, mais il a été le seul à détenir le pouvoir de le faire. Gloire à Dieu. C'est une vérité importante. Dans un monde qui se perd, dans un monde traversé par toutes sortes de courants religieux, par toutes sortes de croyances mystico-philosophico-religieuses, mes amis, dans un monde pareil, où on essaye d'enseigner n'importe quoi, il est plus que temps que nous réalisons, mes amis, qu'il n'y a qu'un seul nom, absolument un seul nom, qui nous a été donné d'en haut, par lequel nous sommes sauvés. Il est le seul qui soit en mesure de briser le sarcophage dans lequel le diable est enfermé et de t'en faire sortir. Alléluia. Il est le seul qui puisse briser le verrou qui te maintient esclave, le verrou de la malédiction. Lui et lui seul a le pouvoir. Oh, alléluia. De délier ce que l'ennemi a lié par rapport à ton éternité. Jésus de Nazareth. Mais comme vous l'avez remarqué, que ce soit dans Matthieu chapitre 1er, que ce soit dans ce chapitre d'Apocalypse chapitre 5, il y a un nom qui est désormais lié, associé au titre du Messie, associé à Jésus de Nazareth. Ce nom-là, c'est Judas. Voyez-vous? Qui est donc ce Judas? Pour aller vite, Judas est un des 12 enfants de Jacob. Il est parmi les enfants que Jacob a eus avec Léa. Il n'était pas l'aîné, il était le quatrième, puisqu'il y a eu Ruben, et puis il y a eu Siméon, et puis il y a eu Lévi, et puis ensuite il y a eu Judas. Et après lui, eh bien Léa a continué aussi à avoir des enfants. Voyez-vous, il y a eu Issachar, il y a eu Zabulon, et puis il y a eu une fille, Dina. Et puis, le vieux Jacob a eu d'autres enfants avec les servantes de ses deux épouses, c'est-à-dire la servante de Léa et la servante de Rachel. D'autres sont venus comme Dan, comme Nephtali, comme Gad, comme Aser, etc. Mais curieusement, nous voyons que dans la généalogie du Messie, eh bien c'est le nom de Judas qui apparaît. Et on ne mentionne même pas ses frères. On dit simplement que Jacob engendra Judas et ses frères. Il est le seul dont le nom paraisse dans la généalogie du Messie, du moins dans ce livre de Matthieu. Dieu passe les 11 autres enfants de Jacob sous silence. Oh, il y a de quoi se dire, mais ça devait être un homme exceptionnel. Oui ou non? Selon les standards des hommes. S'il nous était demandé de mettre en jugement une appréciation, ah ben, on dirait tout de suite, mais c'est formidable. N'importe qui ne peut pas avoir son nom lié à celui du Messie. Qu'a-t-il fait de spécial? Qu'a-t-il fait, mes amis, pour mériter tant d'honneur et tant de considération? Car c'est sa descendance, la descendance de Judas, qui a été honorée au ciel. Alléluia. C'est sa descendance, mes amis, qui a été considérée comme étant digne d'ouvrir le livre. On cite l'agneau de Dieu. Et à côté, il y a le nom de qui? Dont malgré lui, son nom est associé à celui du Messie. Croyez-moi, mes amis, que quand nous serons au ciel, il ne fait aucun doute que nous entendrons souvent prononcer le nom de Judas, parce que ce nom est désormais lié à celui de notre Seigneur. Alléluia. Il est à jamais lié au titre du Messie. Nous entendrons encore les anges proclamés. C'est un des anciens qui cite le titre du Messie, le lion de la tribu de Judas. Mais que savons-nous vraiment sur cet homme? Cet homme nommé Judas. Qu'est-ce que la Bible a à nous dire? Qu'est-ce que la Bible a à nous révéler? Quelle est, en d'autres mots, la radioscopie morale et spirituelle de cet homme que la Bible nomme Judas? Qu'a-t-il fait de spécial, d'exceptionnel, pour que désormais son nom soit lié à jamais, mes amis, au maître de l'univers, à savoir Jésus-Christ de Nazareth, déjà sur terre, voyez-vous, mais aussi là au ciel, qu'a-t-il fait? Eh bien, lorsque nous nous tournons vers l'Ancien Testament pour examiner très objectivement la vie de cet homme, eh bien, nous pouvons arriver à une seule conclusion, que cet homme a une vie d'une grande bassesse morale. Ah! Cet homme, ou l'histoire de cet homme, est une histoire sordide. Je pèse les mots. Une histoire sale. Voyez-vous? Mais malgré tout ça, malgré cela, nous le trouvons à côté du nom du Messie. Comment est-ce possible? Eh bien, tournons-nous vers la parole de Dieu très rapidement. Il y a un chapitre entier dans la Bible qui parle de Judas. Et ce chapitre va nous aider à avoir une idée, à avoir une photographie de ce qu'a été l'histoire, de ce qu'a été la vie de cet homme. C'est donc Genèse, chapitre 38. Nous n'allons pas lire, c'est un long chapitre. Mais je voudrais que nous nous attardions là-dessus, pour que vous et moi nous comprenions, une fois de plus, mes amis, que le Dieu de la Bible est vraiment le Dieu qui fait grâce, que tout ce qu'il fait pour nous, il le fait simplement parce qu'il nous aime. Il n'y a rien de séduisant auprès de nous. Il n'y a rien de charmant auprès de nous qui puisse le contraindre à faire quoi que ce soit. Ce chapitre de Genèse 38 est certainement le texte qui les présente le mieux. Lorsque nous nous lançons dans la lecture de ce passage, eh bien nous voyons tout de suite que le récit de Judas, ou à propos de Judas, nous montre tout de suite comment cet homme Judas s'est éloigné du reste de sa famille. Il a quitté la famille pour aller vers les Cananéens, voyez-vous, et pour finir par épouser une femme cananéenne. Nous trouvons ça dans les deux premiers versets du chapitre 38 de Genèse. Ce n'est pas simplement un éloignement physique ou géographique, voyez-vous, il quitte le lieu où toute la famille vivait pour aller dans un autre lieu. C'est plus qu'un éloignement physique, c'est plus qu'un éloignement, mes amis, géographique, c'est un éloignement spirituel, un éloignement par rapport à l'héritage spirituel familial. Quand il va là-bas, eh bien, il va trouver une femme cananéenne, Choua, à qui il va faire des enfants. Voilà sa première erreur. Voyez, d'aller chercher une femme étrangère, comble de tout parmi les cananéennes. Judas a tout de suite oublié la mésaventure de son propre oncle, à savoir Ésaü, le frère, de son père, Jacob. Ésaü était déjà passé par là. Il s'était mis volontairement, mes amis, dans le pétrin, en prenant les femmes parmi les gens qui ne connaissaient pas du tout le Seigneur. La Bible nous dit dans Genèse 26, 34 à 35, qu'Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béhéri, le Hittite, et Basmat, la deuxième femme, fille d'Élon, le Hittite. Elles furent les deux femmes, mes amis, que Ésaü avait épousées ou avait prises, furent un sujet d'amertume, nous dit la Bible, pour son père Isaac et pour sa mère Rebecca. Vous voyez, mes amis, comment Judas a commencé sa vie. Et Isaac et Rebecca, les grands-parents donc de Judas, ont veillé donc à ce que leur autre enfant, c'est-à-dire Jacob, ne commette pas la même erreur. Ils lui dirent en termes on ne peut plus clair de ne pas prendre de femmes parmi les Cananéennes, mais plutôt d'aller très loin pour en trouver. Et c'est ce que Jacob va faire. Il partira très loin. Mais Judas a méprisé entièrement ce conseil. Ainsi qu'au chapitre 38 de Genèse, verset 2, La Bible nous dit, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Choua, il la prit pour femme et alla vers elle. Voyez? Eh bien, c'est comme ça qu'il va avoir des enfants. Les enfants donc que Judas va avoir avec cette femme cananéenne, ou du moins les enfants qui vont naître de cette union, vont recevoir une éducation apparemment confuse, dans laquelle s'affrontaient d'un côté le Dieu de la Bible et de l'autre côté les idoles de Canaan. La preuve, c'est que le premier fils de Judas, du nom de Er, était mauvais aux yeux du Seigneur, et la Bible nous dit au verset 7 que le Seigneur le fit mourir. Faites attention, quand vous devez vous engager dans des alliances, surtout dans l'alliance conjugale, il faut savoir à qui donner son cœur, car il y va aussi de l'éducation donnée aux enfants. Voyez-vous? Priez! Ne vous laissez pas conduire uniquement par vos instincts charnels. Ne vous laissez pas obnubiler par vos sentiments. Soyez sûr que vous épousez une fille du royaume des cieux. Soyez sûr que l'homme qui vient vous chercher appartient au Seigneur. Autrement, tôt ou tard, mes amis, vous risquez d'avoir des problèmes. Judas n'en a connu. Er est mort. Le Seigneur l'a fait mourir. Voyez-vous? Et c'est ainsi que la femme de Er, Tamar dont il est question dans la généalogie, c'est ainsi que Tamar, la fille du fils de Judas, se trouva veuve. Et en tant que veuve, et étant donné que son mari ne lui a pas laissé ou n'a pas laissé de postérité, il y avait à l'époque, selon les usages, les us et coutumes de l'époque, une loi qu'on appelait le lévirat. Pour les latinistes, ça vient du latin lévir, beau frère, qui prescrivait ceci. Lorsqu'un homme mourait, il laissait sa veuve sans enfant, eh bien le beau frère de la veuve devait prendre la femme, aller vers elle, afin de lui susciter ou de susciter une postérité à son défunt frère. Voilà. Judas proposait son deuxième fils de prendre Tamar afin de susciter une postérité à son frère défunt. Le deuxième fils n'a pas voulu. Et comme le troisième était encore jeune, on a commencé à attendre. Mais avec le temps, l'âge aussi fait son travail, oui ou non? Tamar a attendu, le jeune homme qui grandissait n'était pas du tout intéressé par ça. Et comme le deuxième fils, lui aussi, n'a pas voulu respecter ça, la Bible nous dit que le Seigneur le fit mourir également. Vous voyez, mes amis, il se retrouve avec un seul fils de cette femme cananéenne, Choua. Et comme le fils, le dernier fils, n'était pas intéressé, finalement, le beau-père, c'est-à-dire Judas, demanda à sa belle-fille, écoute, le gamin est encore là, bon, en attendant qu'il soit chaud et tout ça, si tu peux rentrer dans ta famille. C'est comme ça que Tamar, la veuve du fils de Judas, est rentrée chez elle. Les années passèrent. Et Tamar, voyant que sa jeunesse s'en allait, eh bien, et souffrant de solitude, apprit une fois, comme par hasard, que son beau-frère allait effectuer un voyage pour aller tondre son petit bétail. Et c'est là qu'elle va préparer un plan machiavélique, un plan terrible, comme elle tenait absolument à avoir un enfant. Bref, je vous passe les détails. Elle va donc prendre une sorte de châle dont elle va s'envelopper et elle va se mettre le long du chemin comme une prostituée. Et le vieux Judas, c'était la période de la tonte, ça veut dire que l'argent coulait à flot, hein, parce qu'on tondait le mouton et puis on le revendait. Le vieux Judas, ne pouvant pas contrôler ses instincts et ses pulsions, passe par ce chemin-là, il voit une femme voilée, qu'il prend pour une prostituée. Et il demande à la prostituée si on pouvait aller vers elle. La prostituée dit, mais oui, d'accord, mais qu'est-ce que tu me donneras pour ces services-là? Hein? C'est toujours donnant, donnant. Alors le vieux lui dit, mais c'est rien, je t'enverrai un chevreau de mon petit bétail. Voyez? Et il dit non. Si tu tiens absolument, en attendant que tu m'envoies ce chevreau, donne-moi un gage. Tu dois laisser une caution, une avance. Alors comme le vieux tenait absolument, vous voyez la chair, eh bien il a oublié tout. Il a laissé un gage. Et le gage qu'il a laissé était des effets des objets personnels. Il a laissé son sceau, son cachet. Il a laissé un cordon et il a laissé son bâton. Et comme à l'époque, d'ailleurs en hébreu, le mot bâton veut dire aussi tribu. Le bâton, c'était un symbole du chef des tribus. Vous voyez, il a laissé par plaisir. Ça ne vous rappelle pas l'histoire de quelqu'un qui avait vendu son droit d'aînesse? Vous voyez, l'histoire se répète. Il a laissé ça. Résultat, il est allé vers cette femme qu'il a prise pour une prostituée. Et la Bible nous dit que Judas, eh bien, alla vers elle, à mon avis, à quelques reprises, et cette femme devint enceinte. Elle devint enceinte. Elle portera des jumeaux, dont le nom figure, eux aussi, aux côtés du Messie, Pérets et Zéra. Judas part, hein? ni vu ni connu. Ô homme, sache que ton péché t'atteindra. Tôt ou tard, tu récolteras les conséquences de ton péché. Tu peux te présenter comme étant l'homme le plus saint, le plus juste, le donneur des leçons, le moralisateur. Mais Dieu seul sait l'état de ton cœur. Tu affiches une apparence, c'est de l'hypocrisie. Eh bien, le vieux est parti. La vie se poursuit. 3 mois plus tard, ben vous savez, avec la grossesse, hein, pas moyen de cacher. Tu peux cacher les 3-4 premières semaines. Et après, tu as beau serrer, tu as beau... Eh bien, tout le monde se rend compte que la belle-fille de Judas, qui est veuve, est enceinte. Comment cela est-ce possible? Quand la nouvelle arrive chez Judas, mes amis, il chercha tout de suite. Il voulut tout de suite se faire justicier. Il dit, quoi? Tamar? Elle a fait quoi? Elle est enceinte. Elle attire l'opprobre, la honte sur la famille. Qu'elle sorte et qu'elle soit brûlée. Vous voyez, mes amis? Nous qui jugeons, avant de montrer le miroir aux autres pour qu'ils se voient, tournons le miroir vers nous-mêmes. Faites-la sortir, dit-il, qu'elle soit brûlée. Alors on va chercher cette jeune fille, cette veuve, Tamar, enfin jeune femme, et pendant qu'on l'a traînée vers la place publique afin qu'elle soit brûlée, parce qu'elle venait de jeter l'opprobre sur la famille, elle a pris les objets que l'autre avait. Vous savez, c'est parce que je vous passe les détails. Entre-temps, quand il est rentré chez lui, Judas, il a pris son ami, il dit, on a toujours un ami intime, hein, qui connaît tous nos coups. Il lui a remis le chevreau, il dit, tu va sur tel chemin. Il y a une courtisane. J'avais laissé mes effets là-bas, c'est entre nous. Hein? Parle de manière discrète qu'on ne te voit pas. Ouais. Va récupérer ce que j'ai laissé. Mais comme la courtisane, la prétendue courtisane, était partie parce qu'elle a eu ce qu'elle cherchait, son ami est venu. Il a fait tout le tour, personne. Il a demandé au voisinage. Mais la courtisane qui était ici, non, on n'a jamais vu de courtisane ici. Il est rentré, il a dit à son ami, « Écoute, reprends ton chevreau, je ne l'ai pas trouvé. » Enfin bref, la femme prend le cachet, le sceau. C'était un objet personnel. Hein. Et le cordon qu'on faisait passer à travers le sceau, parce que le sceau était cylindrique, et le bâton. Et là, j'étais ça. Et dit, l'homme à qui appartiennent ces objets est le responsable de cette grossesse. Quand le vieux Judas regarde, il dit, aïe, 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 aïe. Elle va reconnaître, elle va confesser. Il est humilié, il va confesser en disant, elle est plus juste que moi. Tôt ou tard, notre masque devra tomber. Voyez ? Bref, Judas. Voilà le Judas dont le nom est désormais lié à celui du Messie. Quelle vie, mes amis ! Si vous et moi devions choisir les personnes devant figurer dans la généalogie, dans la lignée du Christ, pensez-vous, frères et sœurs, pensez-vous que nous choisirions un homme comme Judas? Un homme incestueux, car c'est de l'inceste. Un homme qui a fait des enfants à sa propre belle-fille. Oui, d'accord, la fille était voilée, mais ce n'est pas une raison valable. Toujours est-il que c'était sa semence hein, qui a atterri dans le sein de sa belle-fille. Judas l'hypocrite, Judas le désordonné, Judas le rebelle vis-à-vis des valeurs, vis-à-vis de l'éducation reçue de la part de son père et de ses grands-parents, Jacob et Isaac, qui tous deux étaient serviteurs du Seigneur. Il avait rejeté tout cela. Vous et moi, nous choisirions cet homme-là? Non, non, car à nos yeux, et à ses propres yeux, cet homme s'est disqualifié. S'est disqualifié. Comment peut-on avoir un nom aux côtés de celui du Dieu Tout-Puissant? Mes amis, encore une fois, le Seigneur s'est penché vers Judas et lui a accordé simplement sa grâce. Encore une fois, Judas a reçu cette faveur imméritée de la part du Seigneur. Le Seigneur lui a manifesté sa miséricorde. C'est difficile à comprendre. Oui, la grâce de Dieu est au-dessus de la raison humaine. Comment expliquer que cet homme incestueux, comment expliquer cet homme qui a tourné le dos à l'héritage de son père pour aller se fourvoyer dans toutes sortes de choses terribles? Comment expliquer que cet homme-là, mes amis, puisse figurer à la généalogie, qu'on puisse passer sous silence ses frères, des gens comme Joseph, des gens comme Benjamin, oui ou non? Ruben, Lévi, même Lévi, l'ancêtre de Lévite, les sacrificateurs, est passé sous silence. Il nous a simplement dit que Jacob engendra Judas et ses frères. Et Judas engendra de Tamar sa belle Pérès et Zéra, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au Messie. Mes amis, le prophète Esaïe nous dit ceci à propos du Seigneur, du Dieu de la Bible. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix sont élevées, mes amis, au-dessus de nos voix. Autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. C'est difficile à comprendre, voyez-vous, que tel soit ton responsable. C'est difficile à comprendre que tel autre soit ceci ou cela. Dieu fait grâce à qui il veut. Il élève qui il veut. Il rabaisse qui il veut. Alléluia. Il fait naître l'un dans une maternité huppée. Il fait naître l'autre dans une chaumière, dans une cabane. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Nous ne méritons absolument rien si ce n'est que sa condamnation. Si nous devrions partir des standards purement humains, eh bien Judas n'aurait jamais figuré dans la généalogie du Christ. Son nom ne serait jamais associé à celui du Seigneur dans l'éternité. Et même lui, dans l'éternité, quand il entendra les gens prononcer son nom, il verra la grâce de Dieu. Peut-être qu'il pourra penser à sa vie et en même temps il réalisera qu'il a eu affaire à un Dieu rempli de compassion, à un Dieu qui éprouve du plaisir à bénir ses enfants. Alléluia. Oui, comme nous l'avons vu la fois dernière avant de terminer, le Seigneur lui-même a proclamé devant Moïse sur cette montagne de Sinaï. Le Seigneur a proclamé des paroles qui le concernent, des vérités qui le concernent. Qu'est-ce qu'il a dit, mes amis? Seigneur, Seigneur, ou éternel, éternel, Dieu compatissant, oh alléluia, qui fait grâce, qui est lent à la colère, qui est riche en bienveillance et en fidélité. Voilà le Dieu que nous servons ici. Alors, change ton attitude à son égard. N'essaye pas de paraître plus juste. Ne sois pas, nous le verrons prochainement, n'agis pas comme Judas, qui a été sévère vis-à-vis de Tamar en disant quoi? Elle a jeté l'opprobre sur notre famille, eh bien qu'elle soit brûlée. Voyez-vous, si le Seigneur pouvait, à l'instant où je vous parle, si le Seigneur pouvait projeter sur ses écrans tout ce que nous avons fait tout au long de cette semaine, je me demande qui lèverait la tête en disant « Seigneur, formidable, tu as vu? T'as vu? Oui ou non? » Et pourtant, il nous a gardés tout au long de la semaine. Il a donné la force qui nous a permis de travailler. Et pourtant, son souffle de vie continue de nous animer. Et pourtant, il permet que nous soyons là. Mes amis, le Dieu de la Bible agit par amour pour nous et non pas par contrainte. Le Dieu de la Bible ne peut pas être manipulé, voyez-vous. Le Dieu de la Bible n'est pas un commerçant qui tient un magasin où il vend des bénédictions. Alors tu jeûnes pendant 50 jours, peut-être 50 jours, et tu viens avec ton chèque de 50 jours. Tu te mets au comptoir, tu le regardes en face. Regarde bien, Seigneur. Et tu regardes celui qui est à côté. Tiens, 3 jours. Seigneur. Et avant même de regarder, tu commences à compter. 1, 8, 10, 20. Non. Avec lui, tout n'est que grâce. C'est, tu es ce que tu es. C'est simplement par grâce. Alléluia. Je voudrais vous inviter à incliner vos têtes dans la prière. Que chacun de nous réalise une fois de plus que ce que nous sommes, tout ce que nous sommes, mes amis, et tout ce que nous avons, tout cela n'est que le produit de la grâce du Seigneur envers chacun de nous. Si nous sommes nés comme nous sommes, c'est aussi une grâce. Nous pouvons peut-être considérer que notre morphologie n'est pas bonne, que nous aurions aimé avoir le physique de telle ou telle autre personne, mais j'aimerais vous dire une chose, à côté de vous, il y en a qui sont pires. Alors rends grâce à Dieu, que tu sois en vie, que tu le connaisses, que tu sois là où sa parole est proclamée, dimanche après dimanche. Rends-lui grâce pour ce que tu as, pour le travail que tu as. Il y a tant d'universitaires qui sont au chômage, mais à toi il a accordé une grâce particulière d'avoir les responsabilités que tu as. Dans ton parti, il y a des gens beaucoup plus intelligents que toi. Cependant, c'est à toi que revient cette responsabilité de gérer ton parti politique. Là où tu travailles, la même chose. Tout n'est que grâce. Alors, commence à louer le Seigneur. Commence à lui dire merci pour toutes ces grâces qu'il t'a déjà accordées, pour toutes ces grâces qu'il t'accorde. Oui, le Dieu de la Bible, avec lui, tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Oh, merci Seigneur. Que pourrions-nous te donner en échange, Seigneur, du salut que tu nous as acquis à la croix? Rien, oh Dieu. Que pouvons-nous te donner pour te contraindre, Seigneur, à répandre sur nous toutes sortes de bénédictions excellentes, toutes sortes de dons parfaits, rien, absolument rien. Tu t'inclines vers nous, tu te penches vers nous, tu vois nos besoins, tu les rencontres simplement par grâce, car c'est dans ta nature, c'est dans ton être de nous accorder ta grâce, de nous manifester ta miséricorde, de nous manifester tes compassions, ô Dieu, et de nous ne jamais oublier. Ô Dieu, merci pour tout. Garde-nous de cette religion fausse, de cette religion de l'homme qui fonde tout sur, Seigneur, les mérites personnels, sur les œuvres religieuses, sur les toutes sortes, Seigneur, de pénitences. Garde-nous d'une telle folie. Aide-nous à nous tourner vers la religion de la grâce. Aide-nous à renoncer, Seigneur, à nous appuyer sur nous-mêmes et à accepter notre dépendance totale et entière vis-à-vis de toi. Bénis cette parole, qu'elle reste dans nos cœurs. Merci pour tout. Alors que nous avons nos têtes baissées devant toi,